Dernier moment donc pour cette journée, nous accueillons donc Julien Garic, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'INSPE ou l'INSPE, à l'Université Aix-Marseille, chercheur à l'IREMAM, donc l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, mais également ex-CPE, puisque voilà, nous sommes aussi dans cette actualité aujourd'hui, hein. Ex-CPE, et puis je dirais ex-élève, comme chacun de nous, mais je fais référence à cela aussi parce que dans votre thèse en 180 secondes, qu'on peut donc voir en ligne, enregistrée en mars 2022, vous faites référence en ouverture à ce, voilà, à ce parcours que vous avez, qui bien sûr est important. voilà, je vous invite à le regarder. C'est un très bel exercice, une thèse en 180 secondes à présenter. Hein, et il y a plein de thèses comme ça à découvrir. C'est passionnant. Le titre de votre intervention, l'exclusion de cours en cours, punition révélatrice de la diversité normative dans l'école contemporaine. Vous voyez que le lien avec la table ronde précédente est facile à faire. On a parlé largement de ces questions d'exclusion. Ici, deux articles donnés en référence. Je rappellerai aussi d'abord votre thèse, puisque c'est de cela dont on va parler finalement, ce travail de thèse, soutenu en 2020 en sciences de l'éducation, et qui avait pour titre « Une pratique punitive routinisée, l'exclusion ponctuelle de cours comme questionnement de la norme scolaire dans les collèges de la très grande pauvreté ». Hein, donc effectivement, on est ici sur un terrain particulier. Vous allez bien sûr nous développer tout cela. Vous me disiez aussi qu'il y avait un ouvrage en préparation suite à cette thèse. Donc voilà, en plus bien sûr de ces articles déjà publiés. Vous me disiez aussi, quand on a préparé votre venue, que vous vous intéressiez depuis votre thèse, vous verrez si vous y faites référence ou pas, mais aux questions de conflits liés au principe de laïcité, hein, par rapport aussi à vos fonctions là-dessus, et puis à l'éducation à la citoyenneté et au respect d'autrui comme compétence relationnelle. Voilà, votre conférence va donc nous permettre de découvrir votre travail de thèse dans trois collèges de l'éducation prioritaire, hein, que vous avez noté dans votre titre de thèse de la très grande pauvreté, où vous avez donc enquêté pendant 2 ans, enquêté à partir d'observations, de longues journées finalement d'immersion, hein, aussi bien dans les classes, à la vie scolaire notamment. Hein, on a parlé de ces deux endroits et de la manière dont ils posaient évidemment des contextes très distincts l'un de l'autre. Et puis, entretien ici auprès des personnels uniquement, hein, pas auprès des élèves, pour lesquels donc le point de vue a été capté par ces moments d'observation, personnel, aussi bien enseignants, CPE, AED, chefs d'établissement. Voilà, tout cela pour capter finalement notamment l'expérience de ces collégiens face aux normes, mais pas seulement des collégiens, on l'a bien compris, hein, aussi de ce personnel éducatif. Ces collégiens qui sont confrontés, vous me disiez, à une très grande disparité des cadres normatifs entre peut-être leur vie quotidienne entre pairs et puis celle en interaction avec les adultes de leur collège notamment, ce qui leur permettait de découvrir des limites à ne pas franchir. On a parlé tout à l'heure de cette question des seuils de tolérance également. Par exemple, vous allez revenir, je crois, dans le rapport au silence et au désordre. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole donc pour 45 minutes suivies d'un temps d'échange.
Merci beaucoup. Merci Julie pour cette présentation et merci aux organisateurs et aux organisatrices de m'accueillir aujourd'hui. Donc je vais continuer à parler d'exclusion ponctuelle de cours. Hein, donc effectivement, avec une distinction, vous avez le travail qu'a fait Benjamin Moignard, c'est sur l'exclusion temporaire de l'établissement, mais c'est des mesures qui sont des mesures qui se trouvent dans une forme de continuité, en fait, hein, entre l'exclusion de cours, ensuite l'exclusion de l'établissement et l'exclusion définitive de l'établissement. Et donc, effectivement, là, ce que je vais présenter, c'est des éléments en lien avec le travail que j'ai mené sur ma thèse. Je travaille, je ne vais pas l'évoquer, ou alors, enfin, peut-être dans la discussion, mais je travaille là depuis 2 ans de manière plus importante sur les questions de laïcité, sur, sur ce qui pose problème aussi dans l'application de ce principe dans les établissements scolaires. Voilà. Donc, très rapidement, en fait, le contexte quand même de ce travail-là. Alors, parce que donc, l'idée, si je dis la manière dont l'exclusion de cours va révéler en fait, le cadre normatif qui est appliqué dans les établissements scolaires, c'est effectivement pour voir cette punition, elle se situe au niveau des limites, et en particulier des limites qui sont les limites que les enseignants et les enseignantes vont se définir à elles-mêmes comme la limite pour garder ou pas un élève en classe. Et vous allez voir, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, ces limites sont extrêmement floues et extrêmement diverses. Et que ce flou et cette diversité, c'est quelque chose qui crée de la réponse du côté des élèves, hein, d'une certaine manière. Alors, juste le cadre, rapidement, en fait, parler de la question de l'activité punitive, c'est assez difficile parce que, d'abord, c'est quelque chose sur lequel on a peu d'éléments. C'est une dimension qui a peu été étudiée, qui est encore un objet de recherche peu important en France en particulier. Ce n'est pas le cas. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées sur la question de la punition. En France, on est sans doute encore assez tributaire d'une forme de hiérarchie en lien avec la division du travail éducatif qui fait que la question du comportement, la question de la discipline, la question de la punition font partie encore de thématiques de recherche assez peu valorisées par rapport à la question de la transmission des savoirs, etc. Alors, quand on est sur cette question de la discipline, on est dans l'école française dans une situation assez paradoxale, c'est-à-dire que ce qu'on en sait du point de vue des enseignants et des enseignantes, c'est que les personnels scolaires ont tendance, beaucoup plus que les autres personnels scolaires des autres systèmes éducatifs, à penser qu'ils sont mal préparés à la prise en charge des élèves du point de vue de la gestion de classe, et aussi que le système éducatif français est un système éducatif qui est particulièrement laxiste en termes de réponse disciplinaire vis-à-vis de ses élèves. Or, les études qu'on a, même si elles sont peu nombreuses sur cette question-là, auraient tendance plutôt à montrer que la France, le système éducatif français, fait partie des systèmes éducatifs au monde qui punit le plus. Hein, donc on a une tension entre ces deux éléments, c'est-à-dire une tension par exemple qui s'est beaucoup révélée à travers le mouvement Pas de Vague, hein, qui s'est développé sur les réseaux sociaux autour des années 2018-2019, avec une demande plus importante de punition, d'exclusion, etc. Alors que sans doute, hein, les éléments qu'on a, même si quantitativement ils ne nous permettent pas d'avoir des éléments comparatifs très précis, sans doute que la France est un des pays qui fait un usage le plus important de ces mesures-là. Et effectivement, on a parlé de Benjamin Moignard, hein, son article sur le collège fantôme est intéressant parce qu'il montre que dans les départements dans lesquels il a fait son enquête, tous les jours, il y a l'équivalent d'un collège entier qui est exclu temporairement de l'établissement. Voilà, donc ce paradoxe-là, il est important en fait sur la question de la punition. Et puis, je précise ça systématiquement parce que lorsqu'on est amené à travailler sur la question de la punition, de l'exclusion, on donne à voir ou on va regarder des choses qui ne sont pas toujours agréables. Et donc, évidemment, l'idée de contextualiser ça dans le cadre de l'école telle qu'elle est aujourd'hui est importante. C'est-à-dire que cette étude-là, elle se situe dans le cadre d'une école particulièrement dégradée, hein, à la fois du point de vue de la manière dont les enseignants et les enseignantes perçoivent aujourd'hui leur métier, hein, qui est perçu comme un métier de plus en plus lourd, de plus en plus difficile, et aussi dans le cadre des relations professionnels au sein des établissements scolaires. Là, je renvoie juste à cette étude parce que je trouve que lorsqu'elle est sortie, cette étude de Benjamin Moignard et d'Éric Debarbieux, je trouve que quand elle est sortie, on aurait dû tous s'arrêter en fait de travailler et puis réfléchir sur ce qu'il en était. Et bizarrement, ça n'a pas été le cas, mais bon. Et qui montre à quel point, en fait, entre 2010 et 2022, les relations entre les personnels dans les établissements scolaires se sont violemment dégradées. Entre les enseignants et les enseignantes entre eux, mais entre les enseignants et les enseignantes et les directions des établissements scolaires, et entre les CPE aussi. D'ailleurs, Benjamin Moignard et Éric Debarbieux le pointent comme une vraie question. La manière dont la relation entre les CPE et les chefs d'établissement s'est dégradée de manière violente pendant ces 10 années, alors que ils le disent clairement, c'est une profession qui est traditionnellement une profession qui n'est pas en conflit avec les chefs d'établissement. Donc, pour poser le cadre, parce que ça veut dire que, évidemment, dans une école très fortement sous tension, ces questions de punition vont se jouer de manière différente. Et d'autre part, et ça touche particulièrement le terrain dont je vais vous parler, sur lequel j'ai fait cette thèse, une école qui est une école particulièrement ségrégée, et très fortement ségrégée, et là encore, certainement plus que la plupart des pays de l'OCDE, certainement plus que la plupart des systèmes éducatifs. On est né dans une école où les enfants de classes populaires défavorisées ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans des établissements défavorisés que dans les autres pays de l'OCDE. Ce qui fait un cumul en fait d'éléments qui seront importants pour la suite de ce que je vais vous dire. Donc effectivement, dans les difficultés d'une recherche scientifique sur les comportements, il y a aussi ce dont j'ai parlé ce matin rapidement, une très forte hégémonie concernant le comportement des élèves du paradigme de la violence scolaire. Un paradigme qui a été vraiment construit comme un objet politique, social, scientifique au tournant des années 90, et qui, de ce fait, va empêcher tout type d'autres approches, la question de la violence, ce qui fait qu'on se retrouve avec une grande confusion autour des notions d'incivilité, de civilité, de violence verbale, de micro-violence, etc., et de violence, sans pouvoir distinguer l'un l'autre. Il me semble que ça a un impact important sur l'objet dont on est en train de parler aujourd'hui. Alors, Anne Barrer parle d'incidents en classe. Ça me semble plus intéressant, en fait. Mais là aussi, elle va prendre la perception des personnels scolaires. Elle va voir la perception des enseignants et des enseignantes sur ce qui se passe en classe. Et donc arriver à qualifier effectivement ce qui est de l'ordre de ce qui nous perturbe dans le comportement des élèves, c'est plus compliqué. Et un point aussi qui me semble important à donner dès à présent, c'est que en fait on n'a pas d'appréhension historique du phénomène. Tout simplement parce que alors, les données en tant que telles qui ont été produites sur la question de la violence, puisque c'est de ce point de vue-là qu'elles ont été produites, elles arrivent en France au milieu des années 90, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout en capacité d'arriver à comparer ce qu'il en est de la manière dont se comporte la jeunesse dans les établissements scolaires avant cette période-là. Donc tous les éléments historiques tendraient à dire que les élèves sont plus ont des comportements plus problématiques aujourd'hui, plus violents on va dire, mais disons plus problématiques, en fait s'appuient sur aucune donnée historique crédible. Et par contre, ce qui est produit depuis les années 90 a plutôt tendance à nous montrer une forme de permanence du phénomène, et donc pas une explosion absolue, etc. J'en parlais en aparté, c'est un élément que j'aime bien rappeler systématiquement à mes étudiants. En fait, dans les indicateurs qui sont les indicateurs les plus factuels sur la question de la violence dans notre société, il y a la question des meurtres commis, hein, des homicides. Et en fait, cet indicateur-là est en décroissance constant. On est aujourd'hui en France d'abord plutôt en dessous en fait de la plupart des pays équivalents de ce point de vue-là, et on est au plus bas en fait de ce qui a été commis. Hein, donc la question c'est que derrière ça, c'est que dans une société très pacifiée, on est sans doute beaucoup plus réactif par rapport à l'émergence de la violence. Et donc voilà, mais il faut si on se place sur des éléments qui sont des éléments factuel, on est dans une société qui est de moins en moins violente. Et sans doute, en fait, dans une école qui est au moins dans un phénomène assez constant du point de vue de la violence. Mon travail s'inscrit dans une perspective théorique et dans un certain nombre de travaux qui s'appuie sur le concept de déviance, tel qu'il a été développé par Howard Baker dans les années 60 dans l'école de Chicago. Et il y a un certain nombre de travaux en fait, qui ont été menés ces dernières années en appliquant le concept de déviance à l'école. Et sans rentrer dans le détail d'un point de vue théorique, l'idée c'est l'idée d'un retournement et qui, selon moi et selon les auteurs là, que je vous ai cités, est particulièrement intéressant du point de vue de l'école, c'est-à-dire plutôt que de se placer dans la perspective qui est la perspective encore assez dominante, c'est de se dire que l'école va hériter d'un certain nombre de comportements qui sont des comportements qui sont conçus, qui sont fabriqués dans les familles, dans les quartiers, dans une sociabilisation primaire en fait dont l'école hérite. L'application de la sociologie de la déviance à l'école va réfléchir à la manière dont l'école va construire un certain nombre de comportements ou co-construire un certain nombre de comportements. Je vous ai cité un certain nombre d'auteurs, mais de ce point de vue-là, je trouve que le travail de Sylvie Héral sur La fabrique des garçons est particulièrement éclairant. Je m'arrête dessus 30 secondes, en fait, pour montrer la manière dont ça fonctionne. Sylvie Héral donc, va étudier la question de la punition en collège. Elle part d'un constat qui est un constat extrêmement massif, c'est-à-dire que quand on regarde qui est puni à l'école aujourd'hui, hein, c'est le cas à tous les niveaux, les garçons sont punis beaucoup plus que les filles. On est toujours à peu près à 80% des garçons qui sont punis et 20% des filles qui sont punies. Donc c'est un phénomène très massif. Et évidemment, le sens commun va avoir tendance à penser qu'on punit plus les garçons parce que les garçons sont plus agités, ont tendance à être plus perturbateurs, etc. Et le travail de Sylvie Héral est absolument passionnant parce qu'elle montre que c'est le contraire. C'est qu'elle montre que les garçons sont plus agités, plus perturbateurs, parce qu'on les punit plus à l'école. Et que c'est dans l'inflation des punitions qui va toucher les garçons, avec toutes les représentations en fait, que colportent avec lesquelles les professionnels vont arriver pour punir ces garçons, que au fur et à mesure, la punition qui touche les garçons va ancrer des comportements qui sont des comportements perturbateurs, et pas le contraire. Alors, évidemment, elle fait cette démonstration-là au niveau du collège. On peut très largement supposer que ce travail en fait, de co-construction, je me permets à chaque fois de dire co-construction pour pas trop choquer non plus, mais ce travail de co-construction du comportement des élèves se prépare très largement déjà à l'école primaire et sans doute à l'école maternelle, hein, et que la manière dont les représentations qu'on a, les représentations là pour de ce point de vue-là genrées qu'on a du comportement des élèves, va influencer de manière très très forte la manière dont on travaille. Et du coup, Ma perspective au départ, ma question, c'est de voir comment est-ce que ça a été de voir comment est-ce que les exclusions de cours pouvaient, contrairement à ce qu'on à l'appréhension qu'on pouvait avoir d'une punition qui vienne en réaction à des comportements, pouvaient participer à la construction d'un certain nombre de comportements chez les élèves. Et donc voilà, hein, donc ça c'est la perspective dans laquelle je m'ancre. Et d'autre part, c'est important à avoir aussi à l'esprit, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est que cette dimension de l'école française qui punit beaucoup et de la manière dont les élèves sont punis, elle doit s'ancrer aussi dans une montée générale du registre punitif des jeunesses populaires. Et donc dans une forme de continuité, en fait, de la manière dont les élèves sont amenés à être punis à la fois à l'école et à la fois dans leur vie quotidienne, dans leurs interactions, par exemple, avec les forces de l'ordre, etc. Alors, donc, du coup, le travail que j'ai mené, c'est un travail, donc, comme l'a dit Julie, un travail d'ethnographie. Alors, l'idée, c'est qu'au départ, je me suis dit que, en prenant une micro-mesure et en me focalisant sur cette micro-mesure, j'allais avoir toute une série d'éléments qui allaient m'être révélés sur la relation éducative, sur la vie de ces établissements, etc. Et donc, j'ai passé 2 années dans 3 collèges d'éducation prioritaire renforcée. C'est important de dire 2-3 mots, en fait, sur le territoire particulier dans lequel s'est construit cette enquête. C'est un territoire... Alors, évidemment, ça fait partie de la manière dont le territoire est stigmatisé, s'auto-stigmatise. En fait, les habitants de la ville en question et les habitants du quartier se définissent et définissent ce quartier comme étant le quartier le plus pauvre d'Europe, ce qui est sans doute pas tout à fait vrai, mais qui fait partie, en tout cas, d'un des territoires les plus pauvres d'Europe, qui cumule en fait toutes les difficultés possibles, et ces établissements-là cumulent toutes les difficultés possibles, avec en plus, hein, mais c'est un phénomène qu'on connaît bien du point de vue de la ségrégation scolaire, c'est que dans ce quartier qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe, ces collèges-là vont scolariser une population qui est encore plus représentative de la très grande pauvreté. Puisque même dans un des quartiers les plus pauvres d'Europe, les familles mettent en place des stratégies pour arriver à contourner la carte scolaire. Et donc dans ce quartier-là, dans cet arrondissement-là, il y a des établissements privés qui sont des établissements privés qui scolarisent des élèves très pauvres, mais un peu moins pauvres que ceux des collèges. Et d'autre part, les familles vont contourner la carte scolaire pour aller dans d'autres collèges d'éducation prioritaire renforcée, mais un peu moins stigmatisés que ces 3-là. Hein, donc il y a ce phénomène, en fait, de marché scolaire, hein, qu'on connaît bien. Il joue aussi dans les segments les plus pauvres de la France et dans les territoires scolaires les plus ségrégés de la France. Hein, donc on se retrouve, pour donner quelques éléments, hein, on est dans des quartiers dans lesquels il y a plus de 60% de taux de pauvreté, un taux de chômage extrêmement important, les quelques personnes qui sont en emploi, qui sont sur des emplois précaires, etc. etc. Hein, donc vraiment... c'était un choix, en fait, de ma part, d'aller choisir des endroits qui soient comme un miroir déformant, un miroir grossissant de la réalité de l'école française de manière générale, en sachant, en fait, que j'allais y voir des choses plus extrêmes que d'autres. Hein, avec l'idée d'aller regarder là où vraiment j'imaginais pouvoir rencontrer le plus de problèmes possibles. Donc c'est une enquête que j'ai effectivement réalisé auprès des enseignants, des enseignantes, des CPE, des AED, mais dans un premier temps principalement de manière plus importante auprès des enseignants et des enseignantes, d'une part parce que dans des établissements scolaires, il y en a plus que de CPE et d'AED, mais aussi parce que c'était important pour moi de faire une forme de pas de côté, en fait, en allant regarder de l'autre côté, puisque j'ai été, comme vous l'a dit Julie, pendant plusieurs années, pendant une quinzaine d'années, CPE en lycée professionnel. Donc c'était important pour moi d'aller regarder ce qui se passait. Donc en fait, Une grande partie des données que j'ai recueillies repose sur des entretiens réalisés avec ces personnels-là. Et puis une partie importante aussi d'observation en classe et en vie scolaire et en salle des profs aussi. Avec à la fois des observations qui sont des observations enregistrées, puis des observations qui sont sous forme de notes de terrain. Et donc du côté des élèves, en fait, c'est les deux données que j'ai recueillies, c'est principalement en fait des entretiens entre des CPE et des élèves lorsque ces élèves sont exclus. Alors, sur l'exclusion, en fait, certaines d'entre vous le savent sans doute, mais je le rappelle, c'est une punition qui est un peu particulière et qui est particulière aussi à la France et à la manière très particulière dont s'applique la division du travail éducatif en France. Avec un service annexe de prise en charge des élèves, etc., ce qui n'existe pas de cette manière-là dans d'autres systèmes éducatifs. Et il est dit, en fait, dans les textes qui régissent l'exclusion de cours, que c'est une punition qui doit rester exceptionnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en l'occurrence, dans ces établissements, c'est une punition qui est tout sauf exceptionnelle. C'est une punition qui impacte de manière très très forte les établissements, d'où l'intérêt aussi d'aller regarder. Hein. C'est-à-dire que dans ces établissements, pour à peu près 500 élèves, chaque année, il y a entre 1000 et 2000 exclusions ponctuelles de cours qui sont prononcées. C'est sans doute des chiffres qui sont très en deçà de la réalité. Et dans l'observation, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de journée sans exclusion, il n'y a la plupart du temps pas d'heure sans exclusion, et que généralement, il y a plusieurs exclusions qui sont prononcées chaque heure dans ces établissements-là. Et alors, l'idée d'une punition exceptionnelle, ça c'est un élément qui est important, c'est que ça veut dire aussi que c'est une punition autour de laquelle il y a un grand flou sur son cadre d'application. Hein, il y a un grand flou qui est un flou, vous allez le voir, qui se retrouve dans l'application de manière importante. Et du coup, je vais essayer rapidement de vous montrer un petit peu ce que ça révèle du côté des enseignants sur comment est-ce qu'ils définissent les limites, qui sont les limites qu'il ne faut pas franchir. Hein, du côté de l'exceptionnel, je vais regarder en fait qu'est-ce qu'on peut arriver à voir sur cette punition, sur ce que ça nous amène à voir du seuil de tolérance en fait de ces adultes-là, et puis du côté des élèves en fait, voir un petit peu comment est-ce que on peut interpréter des formes de co-construction des comportements déviants. Alors, le premier point qui est très clair, c'est qu'il y a une extrêmement grande diversité des pratiques d'exclusion. D'abord parce que en parallèle en fait de ces exclusions qui sont des exclusions un petit peu officielles où les élèves sont envoyés en vie scolaire dans un protocole, etc. En fait, il y a toute une série d'exclusions moins officielles d'enseignants et d'enseignantes qui vont envoyer des élèves dans la salle d'à côté, d'enseignants et d'enseignantes qui vont laisser des élèves dans le couloir, etc., etc. Donc ça se décline en fait avec toute une série en fait de nuances très diverses en fait sur la question de l'exclusion, et en lien en fait avec une très grande diversité du comportement des élèves. Et vous allez voir en fait que on va pouvoir voir des comportements extrêmement différents qui peuvent amener à des punitions. Et là-dessus, je cite juste Anne Barrère parce que ça me semble important. Elle dit en fait que notre institution, l'institution scolaire, vit moins d'un déficit de sens qu'une pluralité de sens possible. Et en lien avec cette très grande diversité normative qui touche les personnels, il faut voir derrière ça toute une série de positionnements très particuliers, toute une série de positionnements très divers vis-à-vis des élèves, hein, et vis-à-vis du sens même qu'on donne à la manière dont on va travailler avec les élèves et de ce qu'il en est. Alors, cet élément-là, c'est aussi important à avoir à l'esprit. L'école française se présente Et d'ailleurs, il va falloir que vous l'entendiez comme ça aussi, je pense au futur CPE, comme un système dans lequel il existe une règle qui est une règle immuable pour tous, pour tous les élèves, et que cette règle s'applique à tous les élèves de la même manière. Ça, c'est l'idéologie de notre école républicaine. En fait, cette idéologie-là ne résiste pas à l'épreuve empirique. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont ça se passe dans les établissements scolaires, au contraire, il n'y a aucun accord réel sur la manière dont on doit appliquer les punitions. Et il y a même des désaccords qui sont des désaccords très forts et sans doute insolubles. Hein, donc il y a une extrême diversité des normes. Dans ces attentes qui... Je vais très vite là-dessus, mais ces attentes, elles sont fortement construites à la fois par les parcours bibliographiques des enseignants et des enseignantes en particulier, qui se sont forgés dans leur parcours qui les a amenés à devenir enseignants et enseignantes, une image idéalisée de l'élève et de l'enseignement, qui se heurte, alors dans ces établissements-là, mais qui se heurte en fait dans la trajectoire professionnelle des enseignants, qui se heurte à un monde scolaire que les enseignants et les enseignantes ne connaissent pas du tout, et dont ils sont étrangers. Et donc deux extraits, en fait, qui sont des extraits significatifs de ça. Le premier, qui raconte de manière extrêmement limpide l'idéologie qu'il y a derrière le rapport au territoire dans lequel sont ancrés ces établissements scolaires. Donc Stella, qui est une enseignante de français de 34 ans, qui dit « On se rend compte que la violence du quartier est en train de pénétrer dans le collège et forcément on en souffre, puisque faire cours, c'est un défi de tous les jours. Il y a beaucoup de moments où on craque, il y a des collègues qui sont en arrêt, des collègues qui pleurent, etc. » Et puis Sylvie, qui nous raconte en fait la manière dont elle percevait les établissements dans lesquels elle allait commencer, en disant « Je pensais par exemple que j'allais devoir modifier la façon de m'habiller pour aller bosser. Je pensais que j'allais devoir pas mettre de jupe ou de décolleté. Je pensais que j'allais devoir me blinder, mais également physiquement. Je pensais que j'aurais des classes qui seraient ingérables, que j'aurais peur de certains élèves. Je pensais que je serais malmené. Je pensais que j'aurais des chaises qui volaient dans les classes. » Donc c'est important à avoir à l'esprit, c'est-à-dire que il y a une attente en fait qui est construite socialement de la manière dont on va commencer dans le métier dans ces territoires-là. Une attente qui va déterminer un certain nombre de choses. Alors du coup, juste après, en fait, sur cette question du territoire et la manière dont se fabriquent des frontières qui sont déterminantes, j'ai un petit extrait, en fait, je resitue. En fait, dans ces trois collèges, il y en a un qui est un collège... c'est toujours extraordinaire, c'est-à-dire que dans ces trois collèges, qui sont trois collèges très stigmatisés, il y en a un qui est encore plus stigmatisé que les autres, qui est vraiment un collège qui a une situation très particulière, qui se situe juste en dessous d'une bretelle d'autoroute. Il y a vraiment des classes qui sont à 10 mètres, en fait, de la bretelle d'autoroute, donc... Et c'est un collège qui souffre d'une réputation extrêmement dégradée dans la ville, qui est très repoussoire, ce qui fait que les relations entre les personnels y sont d'autant plus vives et d'autant plus compliquées. Et à un moment donné, je suis entre la salle des profs et la vie scolaire, et en fait, il y a un élève qui a été exclu définitivement de l'établissement et qui... revient dans l'établissement le mercredi soir parce que le collège est ouvert pour les élèves du quartier pour y faire du sport, parce qu'il n'y a pas de gymnase, en fait, et que le seul gymnase, c'est le gymnase du quartier. Et donc une enseignante, en fait, a croisé cet élève-là qui a été exclu définitivement de l'établissement devant l'établissement, et il lui a dit qu'il n'avait rien à faire là, qu'il fallait qu'il s'en aille. L'élève s'est énervé. Enfin, voilà, il y a eu un moment de tension de cette manière-là. Et alors, juste, ça me semblait intéressant aussi par rapport à certaines choses qu'on s'était dit ce matin, parce que, donc, en fait, les enseignants sont furieux contre les assistants d'éducation qui prennent la défense de l'élève. Et donc, l'enseignante Karine, qui est celle qui a été en interaction, elle dit « Ils m'ont dit qu'il est gentil, tu te fais agresser, tu as la vie scolaire qui est du côté des élèves, ils ne sont pas solidaires, c'est grave, je travaille ici depuis 5 ans, j'avais jamais eu peur de venir travailler, ils ne vont pas faire régner leur loi dans le collège. » Et je trouve intéressant la manière dont l'AED réinterprète la chose de l'autre côté, pour plusieurs raisons. Donc, il dit, mais gros, en vrai, elle provoque aussi. Elle parle comme s'il était au collège, alors que c'est le terre-terre. Il est sur son territoire, il a plu à lui parler comme à une prof, à Skip, il a agressé. Mes frères, elle m'a fait serrer, Madame S. D'où il l'a agressé, il mesure 1m20. Moi, je l'ai vu dans l'impasse Chambord. J'ai dit bonjour, il m'a répondu tout poliment. Bientôt, on dirait bientôt, c'est un délinquant avec une calache. Il est tout petit, tout mignon. Tu le pousses avec le doigt, il tombe. Alors, vous voyez, d'abord, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que on est vraiment dans une discussion dans la vie scolaire. Hein, donc, je pense que l'assistant d'éducation en question ne s'exprimera pas comme ça vis-à-vis des élèves, en fait. Mais on voit, en fait, qu'on a... alors, je ne suis pas linguiste du tout, mais on mobilise, en fait, un certain nombre de registres linguistiques qui sont assez proches de ceux des élèves. Hein, et par contre, il y a une différence importante avec la manière dont on parle de cet événement-là en classe. Et là, il est vraiment question de frontières, et il est vraiment question de limites, qui sont des limites qui sont interprétées de manière différente entre les enseignants, d'une part, les AED, d'autre part, et les élèves, d'autre part. Hein, on a toute une série de niveaux qui, avec une perception en fait, des enseignants qui doivent défendre l'établissement contre le quartier, qui risque d'importer un certain nombre de comportements qui sont des comportements perturbateurs. Les élèves, en fait, qui, dans le quartier, ne considèrent que les enseignants et les enseignantes n'ont plus à leur parler comme à des élèves. Et les AED qui sont entre les deux et qui interprètent ces éléments-là entre les deux. Alors, donc dans les éléments que j'ai récoltés aussi, il y a des éléments qui sont des rapports d'exclusion, hein, donc les moments où les enseignants et les enseignantes écrivent ce qui s'est passé à l'exclusion. Et celui-ci, il me semble intéressant aussi dans cette idée en fait, de ce qui bouscule en fait, dans les relations. Donc, alors, pour resituer, évidemment, c'est intéressant à avoir l'esprit, c'est-à-dire que la situation qui est décrite par l'enseignante, qui est une jeune enseignante de SVT, c'est intéressant aussi que ça soit une enseignante de SVT, c'est dans une classe où, alors évidemment, mais c'est bien de le dire, tous les élèves sont des élèves racisés. Hein, tous les élèves sont des élèves issus des migrations postcoloniales. Et elle, c'est une enseignante blanche. Et donc elle dit, en fait, à ce groupe-là, durant le cours de SVT, du mercredi 18 octobre 2017, j'ai expliqué à l'ensemble de la classe comment décrire une espèce scientifiquement et correctement. Je leur ai expliqué qu'il fallait la décrire en nommant les caractères qu'elle possède. J'ai décidé de leur donner un exemple concret, la couleur de notre peau. À ce moment-là, donc, un élève me traite de raciste, chose inadmissible, à mon sens, lui expliquant que je pourrais porter plainte pour diffamation. Pourquoi ce rapport d'exclusion me semble intéressant? C'est parce que, alors, de fait, les élèves expriment là une expérience de... interprète de manière assez juste hein, ce qui, dans les propos de l'enseignante, relève même du racisme biologique, hein, le fait de comparer la couleur de notre peau à des espèces animales, c'est évidemment très problématique. Hein, voilà. Et ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que évidemment, cette jeune enseignante n'est pas du tout raciste, en fait. Cette jeune enseignante est mise dans cette situation en très grande difficulté par des élèves qui expriment leur expérience particulière et leur connaissance particulière en fait de quelque chose qui est de l'ordre du racisme. Et elle est complètement bousculée hein, par cette relation éducative, qui est une relation éducative qui la dépasse à tel point pour plein de raisons, certainement parce que il y a des lacunes qui sont des lacunes disciplinaires, des lacunes didactiques, des lacunes de relations éducatives qui l'amènent dans l'interaction à se mettre en position de défense hein, et à exclure un élève qui relève le fait qu'il lui dit même pas, en tout cas, non, alors me traite de raciste, effectivement, ouais, la traite de raciste, mais effectivement, voilà, hein, donc on est vraiment, ça me semblait intéressant en fait, de voir que là, on était vraiment dans ce qui bousculait l'adulte. Voilà. Alors, donc sur Alors, sur la question des conceptions irréconciliables, ça se joue, par exemple, sur la question du bruit de travail et du silence, où on a là une perception, en fait, de la manière dont les élèves doivent se comporter qui est tout à fait opposée. Donc, c'est un enseignant qui est depuis longtemps dans l'établissement, qui dit « je n'attends pas le silence tout le temps ». Et il explique, en fait, c'est un enseignant qui reçoit des stagiaires qui ont été choqués par le fait qu'il y avait du bruit dans ses classes. Et il dit « j'ai reçu des stagiaires qui considéraient que ce n'était pas le calme plat parce qu'ils ont un idéal du cours qui n'existe pas ». Et un jeune enseignant de mathématiques qui, lui, dit il est intervenu en co-intervention avec un autre enseignant et il dit « il y a une tolérance, c'est très dépendant de tout ce qu'on est capable d'entendre et comment on perçoit le bruit ». Là, du coup, en intervention, je vois que je ne peux pas travailler dans les salles des autres. Il y a trop de bruit dans les classes des autres. Je pète des plombs. Mais bon, eux, ils travaillent comme ça. Hein, et puis, ça a l'air de bien se passer. Un autre jeune enseignant qui va dire de la même manière, en classe, je cherche de la concentration, mais la concentration passe par le silence. Et donc là-dessus, on est sur des perceptions, en fait, des comportements des élèves qui sont extrêmement différentes. Alors, concernant l'exclusion, la démonstration la plus simple et la plus claire, c'est la question des retards. Là aussi, hein, on a deux enseignants qui sont depuis longtemps dans leur établissement. Un premier qui m'explique, c'est comme les retards, les élèves n'ont pas à être en retard, point. Voilà, donc l'élève ne rentre pas en retard dans ma classe, il ne rentre pas dans ma salle. Et puis un autre enseignant dont j'ai pas mis l'âge, mais il a presque 50 ans, il dit, il y a un moment où on a mis au point une règle au collège commune, c'était un gamin qui arrivait en retard de plus de 10 minutes en cours, on ne devait pas l'accepter. Eh ben moi, j'ai jamais accepté la règle et du coup, j'ai jamais refusé un gamin pour ça. Un gamin qui arrivait 45 minutes en retard, je le prends en cours quand même parce qu'il vient. Et là-dessus, je vais passer vite, je montre parce que c'est très parlant. Sur ce point-là, c'est... Oui, voilà, donc je suis très en retard. C'est très, très parlant là-dessus. Une comparaison donc entre deux de ces trois collèges. C'est la même chose pour le troisième. Donc dans le premier collège, la règle est qu'on n'exclut pas des élèves pour retard. Dans le second collège, les enseignants peuvent exclure des élèves pour retard. Donc évidemment, dans les statistiques, ça fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont exclus pour retard. Jusque-là, en fait, ça n'a pas particulièrement... rien d'incroyable. Mais par contre, ce qu'il y a de très impressionnant, c'est que dans le collège donc numéro 2, les élèves arrivent tout le temps en retard. Les élèves mettent en place des stratégies pour arriver en retard, traînent dans les couloirs, se cachent sous les escaliers, etc. Et en fait, le problème du retard est un problème généralisé. Sauf dans les classes des enseignants qui acceptent les élèves quand ils arrivent en retard. Parce que dans le second collège, il y a quelques enseignants qui vont accepter les élèves malgré la règle. Et dans ce collège-là, les élèves arrivent à l'heure dans les classes des enseignants qui ne les refusent pas quand ils arrivent en retard. Alors, évidemment, ça pourrait être anecdotique, mais c'est plus qu'anecdotique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a là, tout au cours de la scolarisation au collège, un certain nombre d'élèves qui vont apprendre à arriver en retard en classe. Et qui vont apprendre à arriver en retard en classe parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va leur permettre d'éviter la contrainte scolaire. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que voilà, il me reste plus beaucoup de temps. Rapidement, en fait, parce que c'est un point qui est un point essentiel de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que, dans la diapositive d'avant, je montrais comment le système scolaire fonctionne comme un système de sélection à tous ses niveaux, avec un certain nombre d'élèves qui vont disparaître au fur et à mesure. Et les élèves en particulier de ces établissements-là, vont mobiliser énormément de travail pour arriver à ce que Erving Goffman appelle un phénomène de normification, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de sembler normal alors qu'ils savent qu'ils sont porteurs de différences, de stigmates, etc. Sauf que le travail en fait, des personnels scolaires va être dans ces processus d'exclusion, à certains moments de leur carrière scolaire, de leur faire reconnaître le fait qu'ils ne sont plus des élèves comme les autres. Et là, en l'occurrence, en plus, à chaque fois, je le présente avec un peu de réserve. C'est une ancienne étudiante à moi, en fait, la CPE. Et c'est quelqu'un de très grande qualité. Donc l'entretien qui est assez horrible, ça n'a rien à voir avec le fait que... Voilà. Donc, en fait, c'est une CPE qui cherche à orienter un élève de 6e au mois de mars. Donc on est vraiment au tout début du collège. Elle cherche à orienter un élève de 6e au mois de mars vers un atelier relais. Et donc elle lui dit, alors les élèves décrocheurs, ils n'ont plus envie de venir à l'école, ça ne les intéresse pas. Alors du coup, c'est souvent, ils sont absents, ils sont en retard, ils ont un comportement, ils bavardent, ils ne sont pas attentifs en classe. Ou alors ils ont des résultats scolaires qui sont assez faibles. Est-ce que tu rentrerais dans une des catégories que je viens de dire ? Les absences, le comportement et puis les résultats dans lesquels tu rentres ? Donc elle amène l'élève à cocher les cases en fait, qui font de cet élève-là un élève décrocheur. Et puis un peu plus tard, en fait, dans l'entretien, elle fait un jeu de rôle, en fait, parce que l'enjeu, c'est que la maman accepte l'atelier relais. Et donc elle demande à l'élève d'expliquer. Et elle dit, qu'est-ce que tu lui dirais à ta maman ? Qu'est-ce que c'est que la classe relais ? Vas-y, je suis ta maman devant. Alors, Amir, elle t'a dit quoi, la CPE ? Et donc, Amir, elle m'a dit qu'elle a pensé à m'aider avec la classe relais. Et c'est quoi la classe relais, Amir ? La classe relais, c'est une classe qui va m'aider à redevenir normal. Et enfin, en dehors du côté horrible du truc, hein, ça me semble important. C'est-à-dire que cet élève, en fait, dès le mois de mars de sa sixième, il a complètement assimilé le fait que c'était un élève qui n'était pas un élève normal. Et malgré tout, en fait, qu'il souhaite redevenir normal. J'ai encore un tout petit peu de temps ou pas ? Ouais, alors ça, bon, j'avais toute une partie, en fait, sur la manière dont on va vers le conseil de discipline. Je vais en faire une autre, donc oui. Voilà, alors là aussi, c'est un élément qui est extrêmement important. Par rapport à cette question d'extrême diversité de positionnement des adultes vis-à-vis de la norme, on constate aussi des positionnements de comportement extrêmement différents des élèves en fonction des situations et en fonction des différents interlocuteurs qu'ils vont avoir dans les établissements scolaires. Alors ça se perçoit de manière évidente en fait lorsqu'on suit une classe tout au cours d'une journée. En fait, les comportements des classes vont être en fonction des enseignants et des enseignantes extrêmement différents en fonction des différents moments. Mais c'est le cas aussi dans des situations d'interaction différentes au sein de l'établissement. Et ici, en fait, c'est une élève donc, que je croise une première fois dans le bureau des CPE alors qu'elle a été exclue. Et j'ai toute une série d'interactions en fait, entre le CPE et cet élève-là, qui est une interaction qui relève de la civilité la plus parfaite. Elle est polie, c'est une élève bon, en plus qui suce un peu son pouce, etc. Donc elle se présente vraiment sous tous les atours d'une petite fille. Et puis je la retrouve 15 jours après, alors qu'elle a été exclue, et je trouve le rapport de l'enseignante qui l'a exclue, qui raconte ça. Donc, dès le début de l'heure, l'élève, Jawida, n'est pas dans une optique de travail, s'agite, parle à très haute voix, n'ouvre pas son cahier. Après un moment, je la vois jouer avec son téléphone, je lui demande de me le remettre. Elle le cache entre ses jambes, je lui demande de se lever, le téléphone tombe par terre, j'essaye de le prendre, elle bouge violemment. Je me retrouve par terre, mais avec le téléphone dans la main. Elle me dit qu'elle s'en bat les couilles. Je lui fais remarquer que c'est incongru puisque c'est une fille et qu'elle aurait du mal à me les montrer. Elle me hurle qu'elle a une chatte et pas des couilles. Lui demande de sortir. Elle refuse car elle veut son téléphone. J'envoie chercher, etc., etc. Et en fait, je vois l'élève à ce moment-là, qui d'ailleurs ne reviendra plus au collège après ça, parce qu'elle va être exclue définitivement de l'établissement après cette altercation. Et ce qui est très impressionnant, c'est que l'interaction avec l'enseignante en classe à ce moment-là a créé un monstre d'une certaine manière. Enfin, a créé cette espèce d'interaction complètement folle, en fait, avec... En plus, on voit cette espèce de très forte sexualisation en fait de la relation entre l'enseignante et l'élève, alors que 15 jours avant, c'était une petite fille qui était en interaction avec des adultes et qui mobilisait de manière systématique tous les codes de la politesse, etc. Ça me semble assez fondamental, et je vais conclure là-dessus pour ne pas prendre trop de retard sur les éléments de ma conclusion. Hop. Donc d'une part, on voit que les élèves sont en capacité de mobiliser une gamme extrêmement importante de registres normatifs dans l'interaction. Dans tous les moments de l'interaction avec les adultes dans les établissements scolaires. Et j'allais dire, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est-à-dire que cette élève-là, Jawida, lorsqu'elle se comporte de cette manière-là, le retour des adultes, c'est que c'est une élève ascolaire qui ne maîtrise pas les codes, etc. Alors qu'en fait, c'est une élève qui maîtrise très bien les codes, mais qui va mobiliser des codes très différents en fonction des différentes situations d'interaction dans lesquelles elle se retrouve avec les adultes. Et là-dessus, il me semble que l'école est très puissante pour produire de la norme, à la fois d'un point de vue négatif et d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'elle est en capacité, en fait, d'arriver à construire, à ancrer chez les élèves des capacités, en fait, de se comporter, qui sont des capacités de comportement très différentes. Et il me semble aussi, ça fait partie des hypothèses sur lesquelles j'en sors, c'est que dans ce processus, qui est un processus qui voit les élèves disparaître au fur et à mesure. Alors évidemment, dit comme ça, d'un point de vue général, dans ces segments-là, il faut imaginer qu'à peu près un élève sur trois va décrocher avant la fin de sa scolarité. On est à peu près à moins d'1% au niveau français, mais dans ces établissements-là, c'est un 1 sur 3. Donc ça veut dire que la disparition des élèves est quelque chose qui est un phénomène très général. Du coup, les élèves qui restent sont des élèves qui sont un peu des rescapés au fur et à mesure et qui voient leurs camarades disparaître au fur et à mesure. Et dans certains de ces moments-là, parce que ça se confirme à tous les niveaux de la scolarité, les élèves, même les bons élèves, vont être amenés à mobiliser des comportements qui sont des comportements qui nous semblent être des comportements déviants pour sauver la face dans l'interaction. Au moment où ils sont amenés à voir que la scolarité va s'arrêter, ce sont des élèves qui vont se comporter de manière très différente, et sans doute, en fait, qui ont anticipé de manière anticipée qui ont anticipé la fin de leur carrière scolaire avant un bon moment avant qu'elle s'arrête. Et donc qui sont en capacité de mobiliser ces moments-là parce que c'est une forme de résistance en fait à l'exclusion qu'ils vont subir. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser du temps sur les discussions. Merci.
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup, j'ai compris en tout cas que c'était une sorte de résistance en fait à l'exclusion et les comportements peut-être un peu vulgaires. C'est peut-être aussi de dire que c'est l'élève qui a choisi d'arrêter sa carrière scolaire là. C'est pas l'enseignant, c'est pas l'éducation nationale qui lui a dit. Tu n'es pas suffisamment adapté, ton comportement n'est pas suffisamment adapté pour que tu fasses partie de l'école. Mais, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de se protéger pour cette jeune-là, de se dire que j'arrête en fait avant qu'on me dise que je n'ai pas les capacités de.
Oui, alors, cela dit, c'est quand même des élèves qui ont... c'est un point que je n'ai pas abordé, mais ce sont des élèves, en fait, qui, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur carrière scolaire, sont des élèves qui ont subi de manière très régulière de l'exclusion. C'est-à-dire que c'est des élèves, en fait, qui, pour certains et certaines d'entre eux, se retrouvent à ne quasiment plus jamais aller en classe, en fait. Et encore une fois, à tous les niveaux du collège, c'est-à-dire depuis la sixième jusqu'à la troisième, de manière très progressive, en fait, des élèves qui... Donc, malgré tout, le système leur envoie quand même un signal qui est un signal que leur carrière scolaire va s'arrêter de manière assez rapide. D'autant plus que le motif de l'exclusion est mobilisé de manière extrêmement récurrente, en tant que menace, en fait. Le motif du conseil de discipline ou le motif juste de l'exclusion de classe est mobilisé de manière très, très régulière. Donc, en fait, c'est quelque chose comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de tous les élèves, de manière très régulière. Malgré tout, il leur a été dit de manière très régulière que... Et même pour... C'est ça qu'il y a d'important, même pour les survivants, entre guillemets, c'est-à-dire même pour celles et ceux qui vont passer en seconde générale, ils ont quand même passé leur collège avec, de manière très régulière, le fait qu'ils entendent « Attention, vous n'allez pas rester longtemps dans le collège, vous allez bientôt être exclus, si ça continue comme ça, etc. » Ce qui fait que, selon moi, c'est quelque chose qui a été assimilé par l'ensemble des élèves, même les bons élèves, en fait, qui s'en sortent. Et d'autant plus, ça, il faudrait continuer, en fait, l'étude au niveau du lycée. Mais ça recommence, en fait, en seconde. C'est-à-dire que ce tri, en fait, tel qu'il a existé au niveau du collège, il va continuer à l'entrée en seconde avec, à nouveau, un signal qui va être adressé et un nouveau tri qui va être mis en place.
Mais du coup, ça doit pas être simple. Alors, je prétends pas du tout me mettre à la place des élèves, ni à la place des enseignants, d'ailleurs, parce que je suis pas du tout dans ce domaine-là. Et voilà. Mais ça ne doit pas être simple pour autant, en tant qu'élève, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais de voir les camarades tomber, en fait, un peu les uns après les autres, et de se dire peut-être que la prochaine, ce sera moi. Enfin, le prochain, ce sera moi. Enfin, dans le monde du travail, quand c'est compliqué... Quand c'est compliqué, on se dit bon, peut-être que je vais finir par me faire virer parce que j'ai des soucis. C'est pas simple d'être productif, c'est pas simple d'avoir envie d'y aller non plus, en fait. Donc, ouais. Encore une fois, je critique pas du tout, c'est pas du tout ma posture, mais ça doit pas être simple pour l'élève qui vit ça non plus.
Ouais, c'est un élément qui est un élément d'après moi fondamental aussi, c'est-à-dire que dans la représentation d'un certain nombre de personnels. Ces élèves, et j'ai beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui me disent ça en entretien, c'est-à-dire que même en fait, ils prennent à partie la classe pour exclure les élèves. Ils me disent, mais là je dis à la classe, vous voulez pas maintenant le virer parce qu'il nous a. Et en fait, il y a une projection sur les élèves qui est une projection d'adulte, c'est-à-dire il y a une projection qui est finalement quand on le vire, tout le monde est content. Et en fait, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental, c'est que en fait tous ces élèves-là sont ensemble d'abord souvent en fait dans les mêmes quartiers, mais dans les mêmes écoles depuis très longtemps. Et lorsqu'ils voient disparaître leurs camarades, je dis ça, c'est symboliquement lorsqu'ils voient disparaître les élèves de la classe, mais en fait c'est quand même un processus qui est un processus très régulier. Lorsqu'ils voient disparaître ces élèves-là, en fait, ils ne sont pas contents de voir leurs camarades disparaître. Ils sont plutôt en souffrance. Et il y a une projection des adultes qui, en fait, va projeter sur les enfants ce qu'ils pensent eux-mêmes, c'est-à-dire bah, ça va nous soulager tous, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et que les élèves ont, au contraire, une assez grande tolérance aux comportements problématiques de leurs camarades, etc., parce que ce sont leurs camarades et que... Mais ça veut dire aussi qu'effectivement, l'expérience de ceux qui s'en sortent, c'est une expérience qui est fondée sur l'élimination des plus faibles. Et ça, c'est un élément qui est un élément aussi extrêmement important. C'est-à-dire que on fabrique quelque chose où ceux qui vont arriver à sortir de ce processus-là, ça va être les survivants d'un processus d'élimination au fur et à mesure de leurs camarades les plus en difficulté.
Enfin, moi, je me posais la question, c'est-à-dire que quand ils sont exclus du collège, ils vont sûrement sur le collège d'à côté. Donc, chaque collège se renvoie les élèves, puisqu'ils ont l'obligation quand même de scolarité, donc ils ne peuvent pas rester chez eux. Donc, comment ils gèrent ça? Et est-ce qu'à un moment donné, il y a une réflexion des équipes et aussi de la direction sur ce système qui ne fonctionne pas?
Alors, en fait, la rescolarisation, elle est malheureusement relative. C'est-à-dire que, par exemple, donc l'élève... Alors, je ne sais plus comment je l'ai appelé là, parce que je l'appelle à chaque fois de manière différente. Je ne sais plus si c'est Amir, mais celui, en fait, qui passe en entretien avec la CPE, qui lui, où finalement, il lui dit « je veux redevenir... » Enfin, la classe relais va m'aider à devenir un élève normal. Donc, il part en atelier relais au mois de mars... Il retournera plus au collège, en fait, parce qu'il fera deux sessions d'atelier relais. Il se retrouve, il revient dans son collège au début de l'année de 5e. Il part tout de suite dans un dispositif géré par la PJJ où il va être pendant 3 mois à l'extérieur du collège. Quand il revient dans le collège, il a un acte de violence vis-à-vis d'un enseignant et il est exclu définitivement de l'établissement. Il ne sera plus scolarisé du tout avant la fin de la troisième. Et alors, si j'ai 3 minutes, je parle de ce gamin parce que c'est très intéressant. En fait, au début de la sixième, c'est un élève qui n'a pas de problème, qui a pas de problème d'absence du tout, qui n'a pas de gros problèmes de comportement. Il a des petits problèmes de comportement. Et de l'avis de tous les enseignants et de toutes les enseignantes, il a surtout un problème de niveau scolaire. Il se retrouve à être exclu de cours régulièrement, parce que ça ne fonctionne pas. Et toutes les personnes qui m'en parlent me disent qu'il a une petite déficience et que donc il n'est pas adapté en fait, à l'endroit où il est. Du coup, lorsqu'il est exclu dans son année de 5e, et d'autre part, hein, c'est un élément important, c'est un élève en fait, qui est en situation de très très grande précarité sociale, mais très très grande précarité sociale, qui ne mange pas à sa faim, enfin voilà, qui est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Lorsqu'il est exclu en 5e, il est rescolarisé dans un établissement, il n'y va jamais, en fait. Il passe son temps à rester devant l'établissement, etc. Bon, là-dessus, le Covid en plus, etc. Donc aucune année de 4e, etc. Et moi, je le retrouve dans un dispositif passerelle à la fin de son année de 3e. Et là, il est testé. Il n'a aucun problème de déficience. Aucun problème de déficience. Je vois ses écrits, alors qu'il n'a plus été scolarisé du tout depuis la 6e, il écrit à peu près correctement. Assez extraordinaire. C'est l'ensemble du parcours, en fait, a été construit par l'école. Alors, encore une fois, c'est pour ça qu'au début, je dis par une école dans une situation extrêmement difficile, avec pas de moyens, une école dégradée, etc. Mais même un élément qui est frappant, c'est que tout le monde interprète la difficulté avec cet élève comme le fait que sa famille ne s'en occupe plus. En fait, si on reprend au tout départ, je suis allé voir ses instits, etc., la famille était extrêmement présente. En fait, c'est l'école qui a construit le fait qu'à un moment donné, la famille a arrêté parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors après, hein, une famille qui parle mal français, enfin, qui a de grandes difficultés, etc., mais une famille qui était très présente et qui suivait son enfant, la famille, en fait, a lâché l'enfant parce qu'elle était convoquée tout le temps pour des problèmes, etc. Et l'interprétation a posteriori, c'est que l'enfant n'a pas réussi à l'école parce que la famille ne s'en occupe pas. Voilà.
Mais justement, la réflexion des équipes face à cet échec, quand même, ils sont en difficulté, ils voient qu'il y a un échec. Est-ce qu'il y a des prises de conscience et de demandes d'aide extérieure, peut-être aussi, pour faire un travail autour de ça? Et je voulais juste redire aussi, c'est que ces situations, elles sont confortées par des familles qui ne vont pas se manifester contre l'éducation nationale. Entre guillemets, alors il serait dans un autre type de collège où des parents seraient plus virulents. Est-ce qu'il y aurait une différence sur le fait d'utiliser l'exclusion aussi autant de fois?
Alors, un point quand même qui est important, c'est que dans les trois collèges dont je parle, qui ont la même population, en fait, on est à un peu moins de 1000 exclusions par an dans le premier et un peu plus de 2000 dans le troisième. Hein, donc il y a un écart qui est un écart énorme, en fait, avec des pratiques d'équipe qui sont totalement dissymétriques. Donc là, cette ethnographie dans ce collège-là, elle est horrible parce que le collège est absolument atroce. En fait, on se retrouve dans des situations qui sont des situations d'autre part, dans certains de ces collèges, il y a des enseignants où ça se passe extrêmement bien, où il n'y a absolument aucun problème en classe, etc. Et il y a des équipes qui fonctionnent très bien, etc. Donc, on se retrouve en fait avec quand même une très grande diversité de pratiques qui sont toutes les pratiques ne sont pas aussi problématiques que là. Donc, il y a quand même des choses qui diffèrent. Et puis, effectivement, après, on est dans une relation qui est une relation dissymétrique de pouvoir entre les élèves, leurs familles et les enseignants et les enseignantes, bien sûr.
Une question. Sur le tableau, tout à l'heure, on avait 100 motifs. Ouais. Collège 2, 30%, 29%. Le collège 1, 25%.
Oui. Oui, oui. Alors ça aussi, hein, effectivement, c'est un élément qui est frappant, c'est que... c'est parce que, évidemment, le fait de montrer là, ces rapports d'exclusion déforme les choses, c'est-à-dire que la grande majorité de ces exclusions sont des exclusions pour des tout petits motifs. Pour des tout petits motifs, c'est-à-dire effectivement des retards, le fait de ne pas avoir son cahier, des petits bavardages et des éléments de cet ordre-là. C'est la répétition, en fait, de façon systématique qui produit ça. Là, en l'occurrence, le fait qu'il y ait 100 motifs, c'est illustratif de tensions très vives entre la vie scolaire et les enseignants et les enseignantes. C'est-à-dire qu'en fait, la vie scolaire demande aux enseignants et aux enseignantes des rapports d'exclusion justifiant l'exclusion. Et en fait, le groupe des enseignants et des enseignantes considérant qu'ils n'ont pas à se justifier fournissent, et c'est très impressionnant, dans le collège numéro 2 en particulier, il y a des tas en fait de rapports d'exclusion qui sont signés avec le nom de l'élève, le nom de l'enseignant et la signature, l'heure, la date, et qui restent vierges en fait. Que les CPE accumulent pour prouver en fait la mauvaise volonté des enseignants et des enseignantes, et que les enseignants produisent pour prouver qu'ils n'ont pas à se justifier auprès de la vie scolaire. Donc c'est sans motif parce que effectivement c'est des rapports vierges.
Moi j'avais une question. J'ai l'impression que c'est la catégorisation qui mène à l'exclusion et que ça fait un moment que c'est mis en place dans ce système-là. Mais comment on pourrait lutter contre cette catégorisation-là en pratique dans les établissements ?
Alors, très vaste question. De mon côté de chercheur, c'est assez difficile en fait à dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses ne soient pas telles qu'on les voit en fait. Parce que évidemment, il peut y avoir une manière de faire qui serait assez flatteuse, c'est de dire dans ces établissements-là, il y a un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes qui n'excluent jamais d'élèves, vraiment jamais. Vous avez aussi à côté des enseignants et des enseignantes qui excluent des élèves en fait à chaque heure de cours. Hein, ça fonctionne de cette manière-là. Donc on pourrait avoir tendance à s'appuyer sur l'expertise de celles et ceux qui n'excluent jamais d'élèves pour voir comment ils font. Ce qu'il y a d'intéressant dans la question de la normativité, c'est que en fait les enseignants et les enseignantes qui n'excluent jamais d'élèves disent de manière assez déterminante, moi je n'exclurai jamais d'élèves quoi qu'il arrive, il n'en est pas question. Et puis ceux qui excluent des élèves tout le temps disent, il y a des enseignants qui n'excluent jamais d'élèves, et d'ailleurs c'est le bazar dans leur classe. S'ils excluaient un peu plus d'élèves, peut-être que ce serait moins le bazar dans leur classe. Voilà. Sur l'écart en fait de représentation, c'est vraiment très compliqué, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'enseignants qui revendiquent le fait d'exclure des élèves très régulièrement pour que ça se passe bien dans leur classe. Et puis d'autres, en fait, qui revendiquent le fait de ne jamais exclure des élèves, quoi qu'il arrive. J'ai encore un tout petit peu de temps. Alors, parce qu'il y a un moment, en fait, qui est un moment assez formidable dans cette ethnographie. Il y a toute une série, en fait, dans le premier collège, il y a toute une série d'enseignants et d'enseignantes qui me parlent du cas extrême où ils me disent bah, « Non, mais moi, j'exclurai jamais d'élèves, quoi qu'il arrive. » Sauf, quand même, il y a des cas extrêmes. Par exemple, dans l'établissement, bah, il est arrivé, il y a un élève qui s'est fait planter un couteau pendant un cours. Et donc là, tu t'imagines bien, il faut être sur l'élève. Et ça se répète, en fait, de manière vraiment régulière. C'est-à-dire que c'est une espèce de justification absolue. On dit, voilà, il y a des limites, en fait, on ne peut pas. Et puis un jour, j'interroge un enseignant. Il me dit, moi, j'exclus jamais d'élèves. D'ailleurs, un jour, il y a un élève. En fait, l'histoire, c'est, il ne s'est pas fait planter un ciseau, c'est pas vrai. Mais il y a un élève qui a balancé un ciseau à travers la salle. Et en fait, les autres enseignants me l'ont dit comme ça. Tu te rends compte, voilà, si on laisse faire n'importe quoi, il arrive, il y a des élèves qui balancent des trucs, il y a des élèves qui se prennent des ciseaux dans le ventre, etc. L'enseignant à qui ça arrivait me dit, moi par exemple, un jour, il y a un élève qui a balancé un ciseau à travers la salle. Je ne l'ai pas exclu, il l'avait fait en fait. Je me suis occupé de l'élève, je lui ai expliqué, j'ai appelé sa famille. Mais en fait, ça sert à quoi d'exclure l'élève ? Il a fait un truc qui est horrible, etc. Donc vous voyez que même sur les cas les plus extrêmes, il n'y a aucun accord, en fait. Le cas qui m'est cité de manière systématique en disant « Là, on ne peut pas déroger, il faut exclure l'élève », l'enseignant auquel c'est vraiment arrivé, il me dit, ben non, quand ça arrive, ça, moi, je n'exclus pas l'élève, je le garde. Je m'occupe de lui, il me dit même, je l'engueule fortement, j'appelle sa famille juste après en disant, vous vous rendez compte ce qu'a fait votre enfant, c'est dangereux, c'est grave, etc. Je m'occupe de lui, mais il n'y a aucune raison que je l'exclue. Donc même là-dessus, en fait, il n'y a aucun accord. Voilà.
Okay, merci. Donc moi, j'avais juste une remarque. Je ne sais pas si j'attends de réponse ou pas. Mais en fait, par rapport au rapport sur l'enseignante de SVT, même si ce n'était pas le cœur de la présentation, je voulais revenir dessus, parce que ça a fait écho à ce qui a été vu aujourd'hui. On a évoqué le fait qu'on pouvait se sentir plus ou moins offensé par rapport à nos ressentis, par rapport à la pratique langagière qu'on avait, etc. Et bon, malgré le fait que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse essayer de définir l'espèce par une couleur de peau alors qu'on est une espèce humaine, voilà, c'est un autre sujet. Mais dans ce contexte, comment on peut essayer de se positionner professionnellement sans discréditer son collègue alors qu'on ne valide pas forcément les faits et que derrière, en tant que futur CPE ou membre de la vie scolaire, si l'élève il est exclu pour ça, on doit le prendre en charge et peut-être que lui, il va nous exprimer... en quoi il a pu se sentir attaqué. Et en fait, ça nous demande de ne pas se prononcer sur le fait que ça a été légitime ou non d'exclure l'élève et de ne pas définir si c'est juste ou pas. Je ne sais pas comment on peut trouver...
Évidemment, je pense que c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que là, on se retrouve face à des... À des dilemmes professionnels extrêmes, je dirais. Selon moi, en plus, je sais la suite, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une très jeune enseignante, en fait, et qui, en l'occurrence, a été tout à fait capable de reconnaître le problème, en fait, qui était posé dans cette interaction a posteriori, en fait. Je pense que là, c'est révélateur des difficultés vraiment d'interaction avec les élèves. Et c'est pas impossible, en fait, de dépasser ces difficultés-là. En l'occurrence, je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à faire, mais qui est un travail de formation, d'équipe, pour arriver à améliorer, en fait, l'interaction éducative. Prendre en compte effectivement qu'il peut y avoir quelque chose d'offensant dans certains... Bon, là, c'est extrême, c'est-à-dire que, heureusement, ça n'arrive pas très souvent que ce type de choses-là soit dites, etc. Mais je pense qu'il y a une compréhension de la part des adultes à avoir de la manière dont... on parlait de communication non-violente. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable apprentissage de comment arriver à s'exprimer vis-à-vis d'une classe pour que cette classe ne se sente pas offensée. Dans les éléments de contexte, hein, ça me semble extrêmement important, c'est que les élèves français sont quand même ceux qui ressentent le plus leur relation avec les adultes comme étant injuste. Hein, donc je pense que derrière ça, la manière dont on manipule de manière importante la punition et comment on la manipule dans les établissements scolaires en France, ça doit nous faire réfléchir sur ce sentiment-là. Je pense que... Et peut-être pour terminer, parce qu'on en a parlé, etc., moi, je reste convaincu que l'exclusion, c'est la meilleure punition qui existe. Je dis pas ça par provocation. C'est-à-dire que, effectivement, le fait de mettre un élève à l'écart à un moment donné pour lui signifier de façon visible le fait qu'il a enfreint un certain nombre de règles, c'est quelque chose qui est, en fait... tout à fait intéressant. La seule chose, c'est qu'il faut penser au retour de l'élève vers le groupe. Il faut penser, d'une certaine manière, au service après-vente. Hein, de comment est-ce que ce qui a été rompu dans la relation éducative à travers ce moment de l'exclusion, c'est quelque chose qu'on dépasse par de la discussion, en mettant du sens derrière ce qui s'est passé, etc. Là, une des difficultés, c'est qu'il y a un certain nombre de ces exclusions qui sont prononcées dans l'idée de pouvoir mettre à l'écart un certain nombre d'élèves qui sont considérés comme étant trop loin de la norme scolaire pour pouvoir continuer à avoir une carrière scolaire. Hein, donc à partir du moment où il y a cette conception-là qui est derrière ça, on ne conçoit pas l'exclusion comme une mesure éducative, on la conçoit comme une manière de sauvegarde de façon générale et qui, à terme, amène à se débarrasser d'un certain nombre d'élèves.
Je me dépêche du coup. Je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez, que l'exclusion c'était la meilleure des solutions. Or, on nous dit que dans le...
J'aurais pas dû dire ça.
Or, nous, on nous apprend que le système, il se veut inclusif. Et là, on est un petit peu en contradiction de ce qu'on dit. On n'est plus vraiment sur une logique d'inclusion, mais vraiment d'exclusion. Et est-ce que, du coup, par rapport à ce que le système veut, on ne serait pas vraiment à l'encontre de ce qu'il propose, quoi?
Alors, on pourrait en parler longtemps, parce que, justement, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le motif de l'inclusion scolaire fait partie des motifs de justification de l'exclusion dans ces collèges-là, de manière importante. C'est-à-dire que... Mais ça se comprend très bien, c'est-à-dire que dans un système qui se conçoit comme dégradé et où les enseignants et les enseignantes voient l'inclusion scolaire comme une nouvelle tâche qui leur est rajoutée, sans qu'il y ait les moyens nécessaires qui soient donnés pour arriver à inclure les élèves, en particulier souffrant de troubles, etc., eh ben, en fait, l'exclusion est manipulée comme une forme de défense vis-à-vis de quelque chose qui est pensé comme un alourdissement de leur tâche de travail. Ça, c'est pour vous dire comment la question de l'inclusion est manipulée dans les entretiens par les enseignants et les enseignantes, mais... En fait, quand je vous dis que l'exclusion est la meilleure des punitions, c'est pas en contradiction avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des manières en fait d'exclure les élèves qui prévoient en fait le retour vers l'enseignant, qui en fait sont des manières très inclusives. Et en fait, si je dis que c'est la meilleure des punitions, c'est qu'en particulier les pédagogies alternatives mettent en avant cette punition, les pédagogies freinées, etc., mettent en avant cette punition comme étant une des punitions intéressantes. Mais toujours, en fait, en pensant effectivement au retour de l'élève vers le groupe.
Voilà, je me permets juste de clore cette journée en remerciant très très chaleureusement les intervenants.